Je veux dire avant.
Ça va être deux têtes.
Tiens, vas-y. J'ai vu que je les imprimais, mais en fait, j'avais des galères de.
Voilà. Oui, j'arrive pas, même pas à l'ouvrir. Bonjour, moi je suis Louise, je travaille à Bois Bocage Énergie depuis 6 mois, qui est une coopérative qui fait du négoce de bois issu de bois bocager géré durablement. Donc créé par des groupes d'agriculteurs et des collectivités en 2006. Alors les chiffres que j'ai pris pour ce matin, donc ça concerne plutôt le bois énergie. J'espère que d'autres compléteront avec d'autres aspects de la valorisation du bois. Donc c'est qu'on est passé de 2006 à 2020 de 26 chaufferies bois à plus de 300. Que les besoins estimés, aujourd'hui on consomme à peu près 900 000 tonnes de bois en Normandie. J'ai pris à l'échelle de la Normandie. Et les perspectives pour 2030, c'est qu'on passe à 2 500 000 tonnes de bois consommées en Normandie. Donc tonnes de bois, c'est du copeau, du bois déchiqueté, donc des copeaux de bois.
Presque 3 fois plus.
Donc, si on passe de 900 à 2 500 000.
Impensable.
Voilà.
D'ici 2030.
D'ici 2030, ouais. C'est les chiffres que j'ai trouvés sur l'ADEME.
Si c'est l'ADEME, c'est que c'est vrai.
Enfin, c'est les personnes.
C'est pas du tout étonnant. Hein. Après, ce qu'il faut mettre en face, c'est la ressource.
Alors,
j'imagine que tu allais mettre les chiffres en face.
Ouais.
Attention au micro, peut-être.
Alors, les chiffres que j'ai trouvés sur la ressource, c'est qu'aujourd'hui, il y a à peu près 60-70% de la ressource qui est issue de bois forestier. Ensuite, 20-30% plutôt de bois bocager. Et le reste, plutôt, je ne me souviens plus, mais plutôt des.
Tout ce qui est du bois qui a déjà été utilisé, qui est
réutilisé. Ah oui, voilà, du bois réutilisé, c'est ça. Et donc voilà, et alors j'ai pas le chiffre du nombre de kilomètres de haies en Normandie, mais par contre, pour vous donner un peu une info, les chiffres qui sont pris, c'est 5 à 10 tonnes de bois, ça correspond à l'accroissement d'un kilomètre de haies par an. Voilà. Donc on peut compter que... Et donc pour chauffer une maison, il faut, ça Gilles peut nous dire, mais il faut... Il y a 2 ou 3 km pour une maison de 100 mètres carrés à peu près.
200 mètres.
Oui, 200 mètres, mais tu le mets sur... soit tu comptes le bois que tu
sur
coupes.
10 ans, ça fait 2 km.
Voilà, oui. Voilà.
Tu coupes le 10 ans.
Voilà. Voilà pour les chiffres que j'avais... Je sais pas si... Ouais.
J'ai une question pour les spécialistes, ils peuvent préciser ce que c'est gérer durablement.
Donc moi je m'appelle Rémi, j'ai suivi la formation d'ingénieur forestier à l'ENGREF de Nancy et aujourd'hui je travaille aussi à Bois Bocage Énergie depuis 2 ans. Ce qui me vient en tête là pour l'idée d'introduire les thématiques sur quels sont les enjeux. Et pour reprendre ce que disait Alice, les murs que moi je vois arriver, là j'en ai 3 en tête. Y a un mur qui s'appelle les changements climatiques, c'est-à-dire les bases sur lesquelles on a des données qui sont encore à construire sur la croissance des végétaux, leur capacité à vivre dans l'environnement et le climat qui est le nôtre. Pour moi ils sont remis en question. Donc là je fais un petit préambule en disant que je vous parle de... avec toute ma subjectivité et je cherche pas à sourcer plus que ça. Là, ce que je vous offre, c'est mes idées à moi aujourd'hui. Donc, je suis pas chercheur en changement climatique ni en adaptation des végétaux, mais je vous parle de ce que moi, aujourd'hui, dans mon chemin de vie d'humain, j'ai en tête quand je réfléchis au bois énergie. Et donc, il y a cet enjeu-là qui me questionne depuis des années. Sur mes dernières années, là, ça fait 3-4 ans maintenant, je travaille plus en forêt, mais je travaille du coup dans le bocage et ou dans d'autres domaines. Quelque chose que je retiens de mes dernières années à l'Office national des forêts, c'est notamment notre capacité à mettre en place des forêts ou des arbres du coup qui grandissent pour nos usages dans ce contexte de changement climatique sur lequel on a des données en avançant et qui avancent à une vitesse qu'on n'a pas connue à ma connaissance. Et donc voilà, et ça c'est quelque chose qui me questionne. Il y a un enjeu, comme Louise vient de le dire, sur la prise de conscience peut-être nouvelle à nouveau de l'importance du bois en tant qu'énergie, notamment dans l'autonomie énergétique des territoires. C'était entre guillemets évident il y a des dizaines d'années quand il n'y avait pas d'alternative. Pareil, là, il y a des personnes qui pourront peut-être mieux en parler que moi sur l'époque de l'arrivée du fioul comme une matière possible, enfin qui a remplacé le bois dans le chauffage, notamment dans les campagnes ornaises, si on s'ancre ici, peut-être plus de 50 ans. Mais il y a cet enjeu-là. À nouveau, on se rend compte avec la crise énergétique de 2022, les augmentations en cours là, des tarifs de l'électricité, qui est un peu notre énergie de base en France, y compris pour le chauffage. On se rend compte de l'importance d'avoir de l'énergie disponible, qu'on sait, sur lesquelles on a un accès régalien, enfin souverain, et sur lesquels on peut atteindre un certain niveau d'autonomie. Donc ça, c'est le contexte par rapport à ça. Et maintenant, c'est un peu les chiffres que donnait Louise, ces enjeux-là. Donc c'est le deuxième mur que je vois arriver. C'est très bien, on identifie à nouveau la pertinence du bois comme énergie pour se chauffer notamment. Je ne rentre pas dans les détails techniques, mais le bois, c'est notamment une énergie intéressante pour le chauffage, beaucoup plus que pour faire de l'électricité ou autre chose. Mais pour produire des mégawattheures de chaleur, c'est des rendements qui sont a priori le meilleur usage qu'on peut en faire. Et là-dessus, si on veut augmenter la part qu'on a de chauffage en bois autour de nous, à l'aune de la quantité d'énergie qu'on consomme en fait aujourd'hui, pour chauffer des maisons comme celle dans laquelle on est, et en fait le entre guillemets, donc pour être un peu provocateur, le luxe énergétique qu'on a construit avec l'accès aux énergies fossiles. Si on dit très bien, en fait il suffit de mettre du bois à la place du fioul et c'est parti, quand on pose les chiffres, ça pose des questions. Et aujourd'hui, j'ai des doutes sur notre capacité à quel verbe je vais utiliser, mais à faire les deux choses en même temps, c'est-à-dire se questionner sur cet aspect sobriété, quelle énergie on utilise pour quel usage, et du coup d'où vient cette énergie. Il y a deux questions à mener en parallèle. Je vous donne un exemple qui est dans mon quotidien. C'est je reçois un appel à Bois Bocage Énergie. Donc nous, on a entre autres activités, on installe des chaufferies bois, on facilite l'installation de chaufferies bois, ce qui pourrait sembler évident, mais en fait qui l'est pas. On est une entreprise qui sert à faire le lien entre des consommateurs et des producteurs de bois, et le fait qu'on développe des compétences du côté du chauffage et de l'énergie, en fait, c'est relié à notre objet, mais c'est des compétences et des métiers qui sont complètement différents. De fait, Bois Bocage Énergie a ses compétences et depuis historiquement, et là, on les renforce en ce moment. Donc, on accompagne des gens pour installer des chaufferies bois et on a des appels. Donc, je reviens à mon exemple pour illustrer ce que je disais. On a un appel de quelqu'un qui nous dit « Bonjour, j'ai un gîte, je chauffe une piscine intérieure, j'aurais besoin de consommer 200 tonnes de bois à l'année ». Voilà. Et, ou alors, si je prends un autre exemple, on est une communauté de communes, on a un espace piscine qu'on aimerait chauffer toute l'année. On consomme 500 tonnes à l'année, on aimerait un accompagnement pour installer une chaufferie. Et c'est typiquement ce genre de... Enfin, pour moi, ça illustre les questionnements dans lesquels on est. En parallèle de ça, je reçois des appels de « Bonjour, on est une mairie, on souhaiterait chauffer une école, on est un logement social, on installe des nouveaux logements sociaux, on aimerait chauffer nos logements sociaux. » Voilà. Et donc là, il y a cette idée d'arbitrage, d'arriver à se poser la question en même temps de quelle énergie on utilise et en même temps, à quels usages. Et est-ce qu'on est capable, nous, de le faire ensemble? Et voilà, donc je vous partage, ça c'est le deuxième point que je voulais aborder sur les questions qui, moi, donc encore une fois, je vous parle avec toute ma subjectivité, moi c'est les questions qui m'animent. Je me dis, tiens, est-on capable de faire ce tri? Est-ce pertinent? Quels ordres de grandeur? Est-ce qu'on priorise des usages? Est-ce entendable aujourd'hui de dire, on est en France, on est une des économies les plus sans doute riches, un des pays les plus riches du monde, et on va arbitrer entre chauffer une piscine et chauffer des logements sociaux? Est-ce que vraiment on a envie de faire ça? Est-ce pertinent? Voilà. Donc c'est des questions que je me pose. Et le troisième point en introduction, ouais.
Cette interrogation-là de tri, ça n'a pas du tout lieu au sein de la structure.
Bah, dans ma tête, oui. Si je suis dans la structure.
À l'heure actuelle, elle fait pas de choix.
Non, non. Alors, mais c'est une question que je me pose, en fait. Tu vois, c'est une question que je me pose pour rentrer plus dans les détails de notre actualité sur l'aspect chaufferie à Bois Bocage Énergie. On a eu un passage à vide sans les compétences chaufferie pendant un an et demi, là. Et là, on a à nouveau une personne qui est arrivée début janvier. Donc, si tu veux, pour l'instant, c'est dans ma tête ces questions-là parce que je n'avais pas, pas de spécialiste en interne pour les traiter. Mais là, maintenant que c'est le cas, et que lui, il prend à bras le corps tous ces sujets-là, donc enfin, je ne rentre pas dans tous les détails, mais donc voilà. Et donc, on va sans doute se poser les questions, peut-être se poser les questions. En tout cas, elles sont dans ma tête et c'est quelque chose qui moi, m'intéresse de discuter avec le conseil d'administration qui oriente la structure. Et donc le troisième point, et j'en finirai là-dessus sur les os que je vous propose de ronger avec moi. Le troisième point, c'est donc premier point, l'accès à l'énergie. C'était quoi mon premier point ? Premier point, changement climatique, merci. Deuxième point, production, mettre en lien une capacité de produire du bois pour de l'énergie et des usages. Et troisième point, c'est comment on fait ? Comment on fait pour mobiliser du bois ? Et ça, pareil, pour moi, aujourd'hui, c'est des enjeux qu'on peut zoomer ou dézoomer à l'envi. Il y a le truc très zoomé qui va être quand je coupe l'arbre. Donc, j'ai une personne, j'ai une machine, je coupe l'arbre. Comment est-ce que je le sors ? De quel endroit il vient ? Quel impact ça a sur l'environnement ? À quel point c'est compatible avec les autres usages du lieu où l'abattage se fait ? Donc ça, c'est très zoomé. Et très dézoomé, c'est quelle entreprise ? Par qui est-elle possédée ? Comment est-elle gouvernée ? Et comment est-ce qu'elle s'insère dans une société globale où il y a les deux premiers enjeux que je viens de vous dire ? Et voilà, et donc et là-dessus, sur comment est-ce qu'on fait, est-ce qu'on a des cahiers des charges, à qui est-ce qu'on rend compte, là, peut-être que ce que je vous dis là, ça fait penser à des normes, à des règles qu'on mettrait, etc. Mais aussi, je veux insister sur l'aspect garder la motivation des gens qui agissent. Aujourd'hui, dans le monde forestier, on a des gros problèmes de destruction des machines par des groupuscules français ou pas, enfin sans rentrer dans les détails polémiques, mais y a des machines forestières dans les faits qui sont détruites sur les chantiers, qui sont sur des actes de malveillance qu'on peut teinter de toutes les couleurs politiques qu'on veut. Mais donc ça, c'est des choses qui se passent aujourd'hui en France, et sur ce contexte-là, il y a aussi des problématiques de motivation d'individus, c'est-à-dire qui aujourd'hui a envie d'être bûcheron, qui a envie de travailler toute sa vie là-dedans, alors même pas toute sa vie, quelques années. À quoi ressemble ce métier, la sécurité, la capacité de personnes de se projeter sur comment on est rémunéré, comment est-ce qu'on est protégé par la société. Alors c'est un métier parmi d'autres, hein, avec les gilets jaunes et la crise du Covid, on a beaucoup parlé des métiers, je ne sais plus comment ils ont été appelés, mais les métiers en tension et puis les métiers de base. Essentiels, merci. Qui sont, pour être très caricaturaux et peut-être provocateurs, mal rémunérés, mal considérés, mais essentiels. Et donc, là-dessus, les métiers en lien avec le bois et le bûcheronnage, c'est des métiers qui sont compliqués, qui sont difficiles. Et donc, comment est-ce qu'on traite ça ? Donc, en synthèse, là-dessus, trois murs. Un mur changement climatique, un mur mesurer et utiliser la ressource forestière qu'on a, et un mur social entrepreneurial pour qu'on ait des gens qui travaillent. Voilà, il y a différents niveaux d'échelle et c'est pas, enfin voilà, il y a l'enjeu des normes, du respect d'un certain cadre pour faire le travail de forestier, mais il y a aussi avoir la capacité d'avoir des gens qui ont envie de faire ce métier, et voilà, tout ça c'est des enjeux qui sont importants pour moi. J'ai dit.
J'ai une question du coup. Tout à l'heure, tu parlais de bois géré durablement. Je le vois dans pas mal de contextes et tout ça. Et du coup, je me pose la question de qu'est-ce que ça veut dire. L'émotion, enfin l'affect que je vois, c'est que nos haies, elles sont quand même déglinguées de plus en plus. Et par contre, il n'y a pas des masses de plantations. Je vois pas des masses de plantations fleurir, quoi. En comparaison des haies que je vois tomber. Donc, je questionne cette durabilité de la gestion. Et vous, spécialistes, vous avez peut-être un autre regard, parce que je pense que c'est assez lié au point numéro 3, l'acceptation sociale de la gestion des haies.
que en fait quand on ne sait pas, quand on regarde de sa lorgnette, on ne comprend pas comment ça fonctionne, on s'imagine des choses, et du coup, quand on n'a pas l'information, on peut être touché. Enfin, moi, je sais qu'il y a un endroit où j'aime beaucoup aller me balader avec un très beau chêne. La dernière fois que j'y ai été, ils avaient rasé les bois qui étaient alentour. C'était un gros carnage, c'est vraiment dégueulasse. Et j'ai aussi pensé saboter les machines qui étaient garées à côté. Je ne l'ai pas fait, mais c'est des pensées qui m'habitent. Et du coup, parce que mes connaissances, parce que mes informations, parce que pas de communication sur ce qui est fait, en fait, on a des... Mais je pense que c'est symptomatique aussi de pas mal d'autres aspects de la société. C'est on a des individus, entre guillemets, étrangers, c'est pas le bon mot, mais des individus qui arrivent de plein de coins de France, de globe, de la région, peu importe, qui viennent dans des territoires qui sont pas du territoire forcément et qui vont avoir un impact qui est parfois très important en termes de destruction, de construction, d'impact local quoi. Et du coup, bah, moi en tant qu'autochtone, ça me touche vachement quoi. Et voilà. Et donc du coup.
Gilles, moi j'aurais juste une remarque. Est-ce que dans l'assistance, des gens acceptent qu'on coupe une haie à blanc? Ça veut dire à blanc, ça veut dire à ras du sol.
C'est ce dont tu parles.
Et pour moi, c'est une. Alors, je parle. On va faire la différence entre des essences qui recèpent et un chêne, quand on le coupe, il ne repousse pas. Un noisetier, un saule, un aulne, quand on le coupe, il repousse. Et de couper une haie avec des essences qui recèpent à blanc, à ras du sol, c'est préserver la haie. Et je finis, juste une deuxième remarque. Quand on a créé la SIC en 2006, notre slogan, c'était « Pour sauvegarder la haie, passons-la à la tronçonneuse. »
À
la tronçonneuse.
Moi, ça me fait rebondir.
La tronçonneuse est l'outil, le meilleur outil pour sauvegarder la haie.
Ça me fait juste rebondir sur... Je connais les propriétés du noisetier à repartir et qu'au contraire, il faut vraiment le raser le plus proche du sol pour qu'il reparte le mieux.
Ce qu'on voit aussi, c'est que des haies sont maintenues en tout petit carré, très tickets de métro. Il faut pas que ça dépasse. Et du coup, là, on ne fait pas vraiment du bois avec ça, puisque les épareuses passent genre tous les 6 mois, peut-être même moins. Et là, il n'y a pas de valorisation du bois. Alors après, j'imagine qu'il y a des problèmes de lignes électriques, de fibres, que sais-je.
Attention.
Moi, c'était juste pour répondre à Gilles. En fait, j'en sais. Ah oui, pardon, mon prénom, Karine. Moi, je suis arrivée dans le bocage il y a maintenant un an et demi. Depuis 3 ans et j'ai un projet d'installation agricole qui n'est pas encore assez défini, mais je sais que en restant dans le blocage, bah, pour moi le but ce sera d'avoir aussi des haies et de les préserver, mais je ne suis pas encore assez au fait de ce que je dois faire. Et pour répondre à ta question, Gilles, en fait j'en sais rien. De prime abord, je dis non, en fait je ne vais pas couper à blanc, mais en fait j'en sais rien, je ne connais pas les essences qu'il faut garder, pas garder, et ça c'est important pour moi de l'apprendre selon le terrain que je vais acquérir, ce que je vais en faire, etc. Mais j'ai une méconnaissance totale en n'étant pas de ce lieu géographique, de ce territoire, à la base, vu que je ne suis pas née ici. Quoi. Ouais, c'était juste ce retour-là que je voulais faire.
Du coup, moi, je voulais partager un peu par rapport à ce que tu posais comme question sur la durabilité. Donc, c'est vrai que j'ai utilisé ce mot-là tout à l'heure. Je pense que c'est... Alors aujourd'hui, il y a 2 labels qui existent qui tentent de définir ce que ça peut être la durabilité de la gestion d'une haie. Donc le premier, le plus ancien, c'est le label haie qui a été monté par une association nationale qui s'appelle l'AFAC Agroforesterie, une association pour l'arbre champêtre, l'arbre hors forêt, donc l'arbre agroforestier, l'arbre de haie, etc. Donc c'est un travail qui a été fait avec des... plutôt des structures, associations du Grand Ouest, donc des régions bocagères du Grand Ouest, et voilà, qui propose un cahier des charges qui mélange de la foresterie avec les spécificités des haies, et qui propose ce que c'est qu'une gestion durable, quoi. Donc ils répondent à cette question. Alors après, est-ce que... Enfin, donc, aujourd'hui, nous, c'est notre référence. Après, est-ce que... Donc, tous les producteurs de bois Bocage Énergie ne sont pas labellisés. C'est une question de savoir est-ce que être un peu moins que le label, c'est déjà de la gestion durable. Enfin, en tout cas, moi, c'est plein de questions que je me pose. Et le deuxième label, c'est le PEFC adapté aux haies bocagères, qui se développe notamment à cause du développement des filières bois-énergie, et du coup, où en fait les consommateurs, les collectivités ressentent le besoin d'avoir une garantie, une traçabilité. Et donc, le label PEFC pour les forêts a été, entre guillemets, mis en place pour le bois bocager. Et donc, au sein du réseau plutôt AFAC Agroforesterie, ça questionne parce que c'est, a priori, beaucoup moins exigeant que ce qui est proposé pour le label F. Donc ça, première chose. Après, par rapport à ce que tu disais sur les plantations, il y a un constat qui est fait nationalement, c'est que, enfin, il y a des plantations que beaucoup, au final, font un peu chou blanc, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas forcément entretenues. C'est des programmes de plantation subventionnés où en fait il n'y a pas forcément, enfin l'intérêt je pense du producteur ou enfin voilà le cadre dans lequel il est fait que les plantations ne sont pas soignées, voire même parfois enlevées, mais sans aller jusqu'à enlever en fait, rien que le fait qu'elles ne soient pas soignées fait que ça va peut-être être une haie qui va rien avoir rien à voir avec ce qu'on peut voir autour. Donc ça c'est un constat. Moi un deuxième constat que j'ai, enfin il y a plusieurs choses par rapport à la destruction du bocage, enfin à la destruction du bocage, à la destruction du bocage que je vois, c'est un le fait que donc on n'a pas le droit aujourd'hui, la réglementation est quand même très stricte et appliquée, enfin sur le fait d'arracher une haie, etc. C'est pas possible de le faire sans autorisation. Par contre, le fait de recéper une haie et ensuite de venir débroussailler chaque année, où ça petit à petit ça détruit la haie, donc ça c'est une des choses qui est insidieuse et qui peut entraîner une dégradation de la haie. Deuxième chose, c'est le lien entre fermier et propriétaire. Aujourd'hui les haies appartiennent a priori au propriétaire et pas au fermier, donc souvent c'est le fermier qui entretient, mais ce qui peut arriver c'est qu'il entretienne, enfin donc il fasse du bois, il recèpe, même avec des pratiques qui peuvent être des pratiques forestières de coupe qui peuvent être bonnes. Simplement, il va toujours laisser les chênes parce qu'ils appartiennent au propriétaire. Et donc, en fait, petit à petit, on va avoir une haie qui va être avec un faciès de auget, avec toutes les CP qui vont être recépées tous les 10 ou 15 ans. Et petit à petit, en fait, il n'y aura plus de lumière pour les CP, pour les jeunes arbres, etc. Donc, en fait, là, on va avoir une haie qui va avoir un faciès plutôt vieillissant. Et au final, quand on va couper les chênes, à un moment, ou quand ils vont tomber d'eux-mêmes, et ben on aura une haie qui va être très appauvrie, et puis là il suffit qu'on continue de débroussailler et elle disparaît. En fait c'est des disparitions vraiment progressives et qui pour moi sont liées aussi à cette espèce de non-lieu qu'il y a depuis, j'ai l'impression, ces 30-40 dernières années d'interaction aussi entre le propriétaire et le fermier. Donc enfin voilà, c'est aussi des... C'est pas forcément une mauvaise volonté, par exemple le fermier peut très bien gérer sa haie de façon... Enfin, d'une bonne façon, mais c'est juste qu'il y a aussi cet aspect propriété de la haie, usage de la haie aussi. Donc le propriétaire veut, par exemple, ne pas couper les arbres, donc, ou bien il n'y a pas de débouché pour les chênes. Enfin, donc voilà, aujourd'hui, c'est un des enjeux que je vois. Et je suis d'accord, enfin là j'étais chez un agriculteur hier qui me disait, mais en fait, moi quand je coupe une haie, je préviens au maximum les voisins, etc. Mais, en fait, on se rend pas compte aussi que toute l'énergie qu'on consomme aujourd'hui, elle a un impact à quelque part autre dans le monde. Et nous, bah, effectivement, quand on coupe la haie, on le voit. Parce que voilà, c'est proche un peu comme les méthaniseurs. Au final, bah, je trouve que c'est intéressant comme phénomène de société parce qu'aujourd'hui, on voit dans nos paysages l'impact de notre consommation, quoi. Et ce que ça peut représenter en termes de taille, d'effet sonore, enfin, tout ce qu'on veut. Et voilà. Et en tout cas... Il y a aussi un autre phénomène que je peux vous partager, c'est donc l'arrivée des pelles sécateurs qui sont des machines qui permettent d'augmenter la productivité, de l'abattage, etc. En fait, il y a plein de façons d'utiliser cet outil. Et c'est difficile, quand on voit une haie coupée, de savoir comment gère l'agriculteur. En fait, on ne peut pas juste s'arrêter à la haie à tout couper. Pour ça, il faut aller discuter. Et, parce qu'en fait, une haie peut ressembler, par exemple, je ne sais pas, elle va être coupée en décembre. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est pas à quoi elle ressemble en décembre. Parce que peut-être qu'en janvier, l'agriculteur va revenir bien reprendre les coupes. Et puis, bah, peut-être que... l'année d'après, elle sera belle et ou pas. Enfin, en fait, il ne faut pas s'arrêter au travail qui a été fait à un instant T. Quoi. Il faut regarder la haie sur du long terme. Si vous voulez voir, si vous voulez sentir si la gestion a été faite avec une intention de durabilité ou pas. Ouais.
Moi c'est François. Je viens du Pas-de-Calais où on a une cité qui s'appelle Énergie Citoyenne qui s'intéresse de manière générale aux énergies renouvelables. Et j'ai fait partie au sein de cette cité d'un petit noyau dur qu'on poussait un peu les chaudières à bois. Donc nous on n'a pas. Nous, on ne faisait pas l'exploitation du bois, on travaillait avec les agriculteurs, mais ce qu'on faisait, c'était apporter des chaudières, apporter de la chaleur clé en main, là où des lieux collectifs en avaient besoin, donc notamment des mairies. On avait aussi un tiers-lieu en question. Et donc, très très vite, quand on a proposé ce projet au sein de la SIC, donc une SIC, c'est une entreprise... Qui est démocratique. Donc quand on apporte un projet, ben, on en discute en Assemblée Générale. Et ça a soulevé plein de questions, effectivement, liées au fait de la gestion de la haie, de pourquoi on coupait des arbres, sachant que dans le Pas-de-Calais, il y en a beaucoup moins qu'ici. C'est un bocage très très dégradé. Et ce qu'on a fait progresser, nous, autour de notre projet, en tout cas ce que le débat a permis de faire progresser autour du projet, c'est que en fait on a travaillé à mettre en place ces réseaux de chaleur, des différents micro-réseaux de chaleur, mais on a travaillé pour que de tout notre poids, de toute notre influence, on puisse travailler sur la baisse des consommations. Et donc, on a eu des réflexions sur l'accompagnement des consommateurs à baisser les consommations, sur une politique tarifaire qui encourage la baisse de consommation, et sur, on a mis en place aussi tout notre savoir-faire technique pour aider les gens à prendre des bonnes décisions pour baisser les consommations. Parce qu'en fait, effectivement, on se rend compte que le bois énergie, c'est génial. Ça a toujours été génial, mais pendant un moment, ça s'est perdu de vue, un petit peu. Et par contre, même la prolifération et la magie du vivant ne suffit pas à compenser le gaspillage énergétique qu'il y a un peu partout. Et donc, installer des chaudières de 300 kW pour chauffer des passoires thermiques, on a senti que c'était pas ce qu'on voulait faire non plus. Quoi. Donc voilà, on a essayé de travailler avec les consommateurs vraiment sur la baisse des consommations. Et ça, c'est un projet de longue haleine. De grande ampleur qui faut toujours mener, que ce soit sur l'habitat individuel, les logements d'entreprise ou sur les bâtiments de la fonction, enfin, des différentes fonctions publiques ou privées. Il y a vraiment un travail énorme à faire sur la baisse des consommations. Et je pense que si on n'avance pas vers ça, on va avoir un déséquilibre avec une demande folle sur le bois qu'une gestion durable aura du mal à pourvoir.
Je sais parce que j'ai juste un tac au tac pour contexte. Par exemple, concrètement, dans cette ZIC, il y avait sur la réduction de la consommation, par exemple, il y avait un truc qui s'appelait famille à énergie positive. On s'était amusé à plusieurs familles, à chacun consommer, à regarder. Chacun avait eu des wattmètres, on avait tous regardé combien on consommait pendant une semaine. Après, tout le monde se réunissait et on faisait le point sur combien chacun avait consommé. Et puis après, on avait des espèces de jeux où on faisait des quiz sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer les trucs. Et ça, pendant 2, 3, je ne sais plus si c'est 6 mois,
on était à plusieurs familles à faire un concours de celui qui allait le plus réduire sa consommation d'énergie. Et entre deux, il y avait des soirées, on faisait des petits quiz sur qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et il y a des choses de cet ordre-là qui sont restées et qui nous ont permis de nous rendre compte là où il y en avait beaucoup, là il n'y en avait pas, là on avait un gap, là les choses où on regardait et en fait c'était pas vraiment significatif. Et voilà. Et puis sur le côté citoyen, c'était des réseaux de chaudières qui étaient du coup possédés par les citoyens. C'est-à-dire que du coup, on incitait des groupes de gens à se regrouper pour telle école et chacun avait une cellule du panneau solaire et du coup, on avait tous ensemble un panneau solaire, par exemple. C'était entre eux, un club cigale, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça, et puis vraiment le réseau de chaudières. Voilà, j'ai fini.
Merci. Je suis Marc. Bonjour à tous et à toutes. Je voudrais poser une question aux spécialistes. Qu'est-ce qu'on devra abattre pour presque tripler la ressource en bois de consommation essentiellement pour le chauffage, je crois, d'ici 2030 ? C'est ma question. Et lié à cette question, il y a la préoccupation du massacre d'une certaine ressource et sans parler du paysage qui est représenté, ce qu'on appelle couramment le bocage. Or, nous disons couramment que nous sommes dans le bocage, nous sommes dans l'ancien bocage. N'oublions pas que les grands mouvements ont détruit d'une façon absolument honteuse et scandaleuse le paysage avec la ressource bois qui s'y trouvait, que Louise a évoqué un petit peu tout à l'heure. Un chêne isolé au milieu d'un champ parce que la haie qui reliait ce chêne à d'autres a entièrement disparu dans la plupart des cas. Et suivant les remembrements, parce que les remembrements ont souvent détruit tout d'un seul coup, les chemins qui débordaient de deux haies, etc. Je m'arrête là, sinon je vais être trop ému. Suivant.
Merci.
C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la ressource bois pour des fins de chauffage, mais on n'a pas beaucoup parlé aussi de potentiellement la concurrence de cet usage avec l'usage BTP, etc. Il y a peut-être d'autres usages que je n'ai pas en ligne de mire, et c'est dommage qu'on n'ait peut-être pas d'acteurs, de personnes qui travaillent dans la scierie ici, je crois pas. Mais voilà, moi, j'ai entendu pas mal d'histoires, même si j'y connais rien, sur le fait qu'on vendait notre chêne en Chine pour qu'il revienne sous la forme de parquet. Je me dis que cette logique-là a des limites. Je ne sais pas si quelqu'un a davantage d'informations que des on-dit sur ce sujet.
Tu veux parler ?
Après ? Oui, mais après.
Une toute petite réponse sur la durabilité. C'est un mot qui a été défini au sommet de Rio en 92, comme quoi sur un objet, une approche tripartite qui prend en compte l'approche économique, l'approche écologique, l'approche sociale. Et aujourd'hui, l'usage de ce mot est un héritage de cette définition-là historique. Et donc, dans la pratique qu'on en fait, enfin en tout cas, comment je l'utilise y compris au sein de Bois Bocage Énergie, c'est cette approche-là. Et aujourd'hui, les réponses, elles se trouvent là-dedans, avec les trois approches. C'est, pour revenir sur les points dont je parlais, donc une entreprise qui est capable d'avoir une inclusion sociale multidimensionnelle, quoi, donc relation avec des institutions et un cadre juridique, relation avec des habitants, etc. Et pour moi, la SIC, par son approche multipartie prenante, permet ça. L'aspect écologique, bah, c'est le lien avec une connaissance de l'objet, là, en l'occurrence du végétal qui pousse, et quelles sont les contraintes et les atouts qui jouent là-dessus. Et économiquement, c'est le rendre crédible par rapport à des métiers, des circuits économiques, des relations clients-fournisseurs. Et donc c'est tout ça qu'on appelle durabilité. Et aujourd'hui, on a différents outils pour réussir cette durabilité et moi ma réponse est aujourd'hui bon, alors moi ma réponse globale c'est faisons plus de cycles, quoi. Enfin, parce que pour moi c'est un objet qui arrive à porter ces trois dimensions et ça me semble souhaitable et pour moi à titre personnel c'est ce qui porte
ma sérénité, ou en tout cas comme ça que je la construis, de d'être en interaction tout au long de ma vie sur l'ensemble de mes besoins et de mes loisirs avec des services et des produits qui sont durables, sur lesquels du coup je peux me projeter sereinement en disant bah, si j'utilise ça, je fais des pratiques comme ça, bah, je sais que je peux le faire dans le temps parce que je suis en train de construire cette durabilité. Je ferme cette parenthèse-là sur ce que vient de dire Alice concernant le fait d'exporter la matière première et d'avoir en retour des produits transformés. Effectivement, là, on parle du bois, mais je pense qu'on... Enfin, en tout cas, ma perspective, c'est si on regarde l'ensemble du développement de notre société depuis des dizaines d'années, c'est le modèle qu'on a choisi. Et on, j'ai l'impression, et qui a été illustré pendant le Covid, sur le fait que, pour être cycliste, les magasins de vélo étaient vides, quoi. Parce qu'en fait, les pièces de vélo, elles sont construites ailleurs que chez nous. Et donc, y a ce commerce international le village global là, c'est comme ça qu'on fonctionne, et le fait que la Chine absorbe les matières premières du monde, alors je suis hyper caricatural, mais c'est le cas pour le bois, mais c'est le cas pour plein d'autres sources, et c'est les choix qui ont été faits. Et aujourd'hui, quand on regarde les plans annoncés par le gouvernement ou par Macron à titre personnel dans son approche très concentré, de dire on veut réarmer démographiquement et matériellement la France, etc., et ramener, réindustrialiser le pays et toutes ces choses-là, on s'est travaillé sur ce point-là, de dire en fait aujourd'hui les industries qui produisent des produits transformés, qui produisent des machines, qui produisent des choses, elles sont pour la majorité en dehors de chez nous. Et pour prendre un autre exemple sur lequel j'ai lu un livre, donc avec des niveaux de preuves qui restent faibles, mais qui sont dans ma tête, c'est la filière des terres rares en France était une filière qui était développée, alors j'ai pas les repères temporels, mais disons il y a 50 ans, et avec l'arrivée sur des choix politiques stratégiques, et en fait pour moi il faut aussi regarder ça avec humilité, c'était peut-être des bons choix. Enfin, à l'époque, au moment où on a décidé, qui ont amené le confort dans lequel on est aujourd'hui, les capacités qu'on a d'agir aujourd'hui, elles ont été construites là-dessus. Et donc, pour moi, mon ressenti, c'est vachement d'humilité, et puis de dire, bon, voilà, on a un constat aujourd'hui, et on part sur une autre dynamique, on a une autre stratégie, on grandit de ce qu'on a, et ça, pareil, c'est quelque chose qui me semble durable et qui moi, me rend serein, de dire, on est capable de regarder en face ce qui se passe, et donc on n'est pas en train de se comporter en victime en disant, pauvre de nous, machin, mais on se dit, ok, on en est là, on a fait ces choix-là, et on aurait été à la place des gens qui ont décidé, on aurait peut-être fait pareil, et du coup, aujourd'hui, on a d'autres choix à faire, et allons-y, et créons plus de SIC. Tu voulais dire quelque chose,
Gilles ? Moi, je voulais répondre sur les à couper l'économie de chaleur et puis je sais plus, il y a encore un truc, et puis ton dilemme. Moi, je serais à dire aujourd'hui, comme l'avenir de la haie ne passera que par la tronçonneuse, puisque les haies, si on les coupe pas, si on les entretient pas et si on les exploite pas pour qu'elles produisent, elles crèvent d'elles-mêmes. L'exemple que tu disais, Louise, des gros chênes avec du bourrage entre deux, si les chênes sont trop gros, ils ne poussent rien entre deux. Et les agriculteurs qui aujourd'hui considèrent la haie comme un problème, une entrave à la mécanisation, en les encourageant à entretenir leur haie et à faire qu'elles deviennent des lieux de production de bois, hein, bois énergie, bois bûche ou bois autre, on énormément de haies. Je crois qu'on exploite moins de 5% des haies du département aujourd'hui. Moins de 5% des haies du département.
Je peux te fact-checker là-dessus. Donc, je remets vite fait des chiffres, Louise en parlait tout à l'heure. On a à peu près 200 000 km de haies à l'échelle de la Normandie. Dans l'Orne, on est sur un ordre de grandeur de 30 000 km. Là, on parle de capital existant. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il y a énormément d'hétérogénéité. C'est vrai pour le vivant de manière générale, c'est vrai donc pour Noé. Il y a l'association qui a créé la typologie des haies, elle donne 23 types différents de haies. Donc voilà, rien que dans les types, et après sur comment est-ce qu'ils habitent notre paysage. Donc il y a beaucoup d'hétérogénéité, donc ça veut dire qu'il n'y a pas ni le même capital sur pied. Capital sur pied, c'est si je coupe toute ma haie, qu'est-ce que j'ai comme quantité de bois. Donc ça, c'est le capital, et après il y a la productivité, c'est-à-dire si je la laisse pousser, combien est-ce que de mètres cubes elle fait par an. Donc ces deux variables-là, elles sont très hétérogènes. Donc 30 000 km de haies, les chiffres de l'association qui observe à l'échelle de la Normandie, elle dit que globalement aujourd'hui à l'échelle de la Normandie, 50% de l'accroissement des haies est prélevé tous les ans. Et donc ça veut dire qu'il y a 50% qui restent disponibles à prélever. Donc l'accroissement annuel, c'est en une année, ma haie, elle produit combien? Et c'est souvent un repère pour répondre justement à cet aspect durabilité, c'est-à-dire que si on dit qu'on prélève autant que ça pousse, eh ben on se dit qu'en fait tous les ans on peut le faire, étant donné qu'il y a pousse autant qu'on prélève, et donc ça on se projette dans le temps avec. Et donc ouais, on est plutôt sur 50% à l'échelle de la Normandie de prélèvement, ce qui représente à peu près 500 000 tonnes de bois prélevées. Ça c'est les chiffres actualisés de biomasse.
Moi je parlais en termes de potentiel de haies qu'on pourrait, si l'haie était productive. C'est quand je dis 5, c'est peut-être 10 aujourd'hui, mais moi, j'étais resté sur un chiffre très bas en disant voilà, comme nos haies ne sont pas entretenues, tu parlais des haies coupées, taillées au carré, là, en ticket de métro, une haie comme ça, elle ne produit rien. Elle ne rend aucun service. Elle ne rend aucun service à part faire une clôture naturelle pour éventuellement un petit veau.
Ce qui est un service quand même.
Oui, oui, non, mais.
En fait, je pense que le chemin, il est aussi à trouver en respectant ça. Je veux dire, si aujourd'hui elle est pratique, typiquement une haie au carré, c'est beaucoup d'entretien, non? Enfin, il faut que tu passes tous les ans, ou tous les deux ans, que tu fasses ton entretien.
Oui, mais.
Aujourd'hui ça remplit un service à quelqu'un. Et c'est vrai que nous, avec notre regard, et quand on réfléchit production de bois, ça ne produit pas le service auquel on pourrait s'attendre.
Et ça ne produit pas non plus les services.
De captation de flotte.
De biodiversité et compagnie. Tandis que si on se mettait à entretenir ces haies-là pour arriver à ces services-là, et donc moi, mon idée, c'est plutôt de dire, encourageons tous les agriculteurs, le maximum d'agriculteurs, éventuellement leur rémunérant par des services environnementaux, là, l'entretien de haies et les obliger à faire des choses intéressantes. On gagnera sur la qualité de l'eau, on gagnera sur l'hybrison et compagnie. Et derrière, on pourra développer une filière bois. Parce que les agriculteurs auront une garantie de pouvoir commercialiser une partie de leur bois. Moi, c'est un peu par rapport à ta démarche de dire, voilà, est-ce qu'il faut qu'on arrête de dire on ne va pas chauffer la piscine d'un mec à son gîte et qui veut une piscine à 26 degrés pour ses locataires qui viennent d'Angleterre ou je ne sais pas d'où. Mais par contre, moi, je serais plutôt de dire, encourageons les agriculteurs du coin à faire du bois, chauffons cette... et puis... là, on va entretenir nos haies et les rendre productives. Et il y avait une deuxième étape sur on plante 7500 km de haies en France, je crois, par an, et on en arrache entre 20 et 25 000. Je crois que c'est 7500 km qui sont plantés chaque année en France, et il y en a un peu plus de 20 000 d'arrachés. Moi, j'ai planté une haie, c'est pire que tout. Aujourd'hui, planter une haie en refaisant une haie, c'est un métier complet. J'entretiens mes haies. Celles que j'ai plantées, c'est celles qui produisent le moins. Parce que les 15 premières années, tu as détruit le sol, tu as modifié ton talus et compagnie. C'est compliqué, quoi. J'aime mieux rénover une haie par une bonne coupe que par un arrachage complet et replantation.
Si je continue avec les ordres de grandeur chiffrés, et je veux bien de l'aide là-dessus, si on considère que... On prend un chiffre moyen tout à l'heure, je vous parlais des deux dimensions, là, la dimension capital sur pied et la dimension productivité. Si on prend une haie qui, quand on coupe 100 mètres de cette haie, disons on a 30 tonnes de bois.
30 mètres cubes.
30 mètres cubes de bois. 10 tonnes de bois. Une ville comme Flers pour son hôpital, donc on va dire qu'un hôpital, est-ce qu'un hôpital c'est un usage noble? Oui, on va dire que oui. Donc pour son hôpital, la ville de Flers, elle a une chaufferie. Cette chaufferie-là, je ne connais pas les chiffres exacts, disons elle consomme 4000 tonnes de bois à l'année, ce qui doit être dans l'ordre de grandeur. Donc 4000 tonnes de bois à l'année, et là je viens de dire, pour 100 mètres, on a 10 tonnes. Comment?
Je fais x10, 40 km.
Voilà. Donc ça voudrait dire que tous les ans, pour alimenter l'hôpital de Flers, il faudrait que... Si on se met une contrainte de distance, il faudrait qu'on coupe autour de Flers 40 km de haies. Et donc ça, c'est pour revenir sur mon deuxième point d'introduction, de dire, peu importe, en fait, peu importe les chiffres, c'est peut-être pas 4000 tonnes, peut-être que les haies, elles se produisent plus, mais c'est juste le facteur qu'il faut se souvenir. On est sur des dizaines de kilomètres de haies pour l'usage d'un... là, on est en train de parler de l'hôpital.
1 km de haie,
30 mètres cubes. Non, 100 mètres, 30 mètres cubes.
100 mètres, 30 mètres cubes, 10 tonnes de bois plaquette.
C'est pour vous donner, voilà, c'est pour vous donner un peu des ordres de grandeur. Et
je vais un facteur 10 qui se baladait.
Et pour et donc aller là depuis quelques années, et moi je l'ai vraiment senti, je suis dans l'Orne et à Bois Bocage Énergie depuis janvier 2022, et là en l'espace de ces deux années là, qui donc sont deux années à l'échelle d'une coopérative qui a 17 ans à peu près, sur les deux années qu'on vient de vivre, il y a eu deux bascules majeures que moi j'ai à peine senti, parce que j'étais là sur la fin de la première tendance. La tendance quand je suis arrivé, c'était comment on va trouver du débouché pour le bois de haie, quoi. Et donc ça, c'était vraiment mes trois premiers mois. Et depuis, ça a été la bascule complète de dire, mais là, les robinets sont ouverts partout, quoi. Là, et là encore, en ce moment, on est courtisé par des énergéticiens majeurs français, donc Engie, Dalkia. Nous, en local, on a Biocombustible qui est un, un fournisseur de ces grossistes-là, qui nous courtise, qui cherche du bois. Et on est en train de parler de l'installation de plusieurs projets. Là, j'ai un rendez-vous dans deux semaines avec Engie. Ils ont quatre projets qui consomment plus de 5000 tonnes de bois chacun, qu'ils vont installer d'ici 2026. Voilà. Et donc, bam, vous voyez les ordres de grandeur de ce dont on est en train de parler. Donc ça, c'est vraiment le deuxième point dont je vous parlais, là, de dire, OK, on a repris conscience de la pertinence du bois comme énergie de chauffage, et y compris du bois qui vient du bocage. Et comment est-ce que, en tant que société, on est capable de faire le lien entre les usages et les besoins et la capacité à mobiliser. Les ordres de grandeur, ils sont et surtout qu'en plus, mais donc là, ça, après, on dérive sur de la politique et tout. Mais j'étais cette année à Paris à la réunion semestrielle du Comité interprofessionnel du bois énergie français. Donc en gros, c'est tous les acteurs, notamment les gros acteurs bois énergie de France, qui se réunissent ensemble dans une interpro. Et toutes les courbes qu'on nous montrait, c'est des courbes qui étaient penchées vers le haut sévèrement, quoi. C'est-à-dire le plan de l'État français, le plan des régions, on augmente tout pleine balle et c'est parti. Et donc il y a, en fait, quand je vois des trucs comme ça, moi, sans regarder les chiffres, ça me questionne, quoi, sur le fait de dire on passe en hyperespace, quoi. On met tout à fond la caisse j'arrive avec mes soucis, hein, mais comment est-ce qu'on gère ça en tant que société, quoi. À quel point c'est crédible, à quel point on se berce d'illusions et puis on dit bon bah ok, c'est juste des nouvelles illusions, parce que si on regarde la courbe de développement du nucléaire, c'est la même, hein, c'est vers le haut, quoi, à fond la caisse.
Je vais me mettre là un peu, comme ça je sors de la chaleur, là.
Arrête de cuire.
Roméo, ouais, en train de cuire. Je me remémorisais le titre de l'atelier qui est « Qu'ont-ils et qu'ont-elles fait en 2025 pour changer les choses ?» Vu qu'on est un peu dans la science-fiction, est-ce que ça vaudrait pas le coup, justement, pour un peu éviter que ces courbes exponentielles arrivent, de se lister les besoins qui sont essentiels pour nous, qui nécessiteraient de la coupe de bois dans le bocage, quoi.
Après, ça peut être fait en atelier, effectivement.
Ok. Et ça, il y a des ateliers de prévu à un moment donné dans le...
Ouais, c'est ça. Bah, là, j'allais bientôt faire un petit tour pour proposer... s'il y a des questions maintenant, c'est le temps de les poser. S'il y a d'autres murs à mettre un peu au tableau, c'est le moment. Et à un moment donné, on va se dispatcher. Je sais pas si ça...
Pas... Ça répond. Bah, ouais. Moi je suis motivé s'il y a une sous-groupe pour établir une liste, ok, le besoin vitaux, ouais. C'est ça, tac tac tac, les besoins non vitaux, c'est la piscine, machin, je sais pas quoi et autres.
Et ce qu'on peut faire, c'est au sein de chaque groupe peut commencer le petit travail en listant un petit peu ça. Alors attends, il y a. Je prends juste. Donc je sais que s'il y a une dernière prise de parole.
Ouais. Karine.
François, Karine et...
Okay. Je serai bref. C'était par rapport à l'hôpital de Flers. Est-ce que tu sais si... Est-ce qu'il y a eu 600 km scellés sous plan de gestion associés à l'installation de la chaudière ? Voilà.
Aujourd'hui, on ne fournit pas l'hôpital de Flers. On a des cas. Je pense notamment, par exemple, à une commune qui s'appelle Tourouvre, dans le Perche, qui nous a fait travailler, alors nous d'autres, hein, mais en fait je le connais parce que c'est nous qui avons travaillé, nous a fait travailler pour faire dans l'ordre, et c'est l'approche aujourd'hui que je prends pour les communautés de communes qui viennent nous voir à Bois Bocage Énergie, qui ont fait dans l'ordre un inventaire bocager suivi d'une installation. Et en ce moment, on est en train de travailler pour la métropole de Caen, qui est en train de faire un plan d'approvisionnement territorial bois, donc forêt plus bocage, dans l'idée derrière dans l'idée derrière d'installer des projets chaufferie bois. Alors je souris là et j'aimerais bien passer en off, mais politiquement ça se passe dans le sens de on veut faire des projets chaufferie. Ah mince, on va nous demander des comptes. Vas-y, on fait un plan d'approvisionnement. S'il vous plaît, nous mettez pas des bâtons dans les roues et on fait nos projets chaufferie, quoi. Mais du coup, en fait, la démarche est quand même là et c'est remarquable. Donc voilà, enfin, j'empiète pas sur ce qu'on va dire après, mais typiquement demander ce genre de comptes pour faire les choses dans l'ordre. Enfin, aujourd'hui, on a des outils, en tout cas pour la partie bocage. Et je mets des petits disclaimers. Juste pareil, je vous donne à nouveau quelques chiffres. Le marché du bois en tant que combustible en Normandie, c'est 80% encore du marché bûche. Donc voilà, pour mettre en perspective, donc ça veut dire 80% du bois vendu pour l'énergie en Normandie, c'est pour des bûches, pour des particuliers. À côté de ça, il y a les usages collectifs et industriels qui sont du coup marginaux par rapport au reste. Et à cet intérieur des projets... en dehors de Grenoble, oui. Et sur cet approvisionnement-là, 75% de l'approvisionnement, c'est forestier. Voilà, donc faut remettre aujourd'hui la quantité de bois bocager qui finit comme du bois énergie en Normandie à l'échelle de l'ensemble du bois énergie normand, ça représente 10%, allez, maximum, 10% maximum. Donc il y avait deux poupées russes, hein. Il y avait le marché énergie, c'est surtout de la bûche pour des particuliers, et ensuite sur d'où provient le bois, c'est 75%, trois quarts, ça vient de la forêt. Et donc le bocage, ça reste une toute petite partie.
Une question rapide, elle en est où la ressource en bois forêt dans l'Orne?
Alors là par contre je vais être limité parce que j'ai pas actualisé mes notions là-dessus. Je préfère pas répondre.
La forêt ornaise est en majorité de tout petits propriétaires de parcelles, moins d'un hectare, mais plus de 80% des propriétaires forestiers ont moins d'un hectare. Donc à partir de ce moment-là, tu ne peux pas exploiter, puisque quand tu viens exploiter une parcelle d'un hectare au milieu de 20 autres, tu peux pas exploiter, quoi, en fait. Ce qu'il faudrait, c'est que les propriétaires, les mini-propriétaires, s'associent entre eux pour arriver enfin à exploiter leur forêt, quoi. C'est ça le défaut. Donc la forêt ornaise n'est pas exploitée du tout parce qu'elle a trop petits propriétaires.
Là-dessus, je veux bien rebondir rapidement parce que ça fait partie des murs. C'était dans ma tête juste avant. Je vais pas arriver à retrouver le sujet, mais là, c'est le cas. Moi, j'ai l'impression, depuis que je travaille dans le monde forestier, donc depuis un moment, l'enjeu de la propriété et du coup derrière du commun, en fait, comment décide-t-on ensemble? Si on dézoome et qu'on se dit tiens, on est une société d'humains sur un territoire et pour gérer nos ressources, ce qu'on va faire, c'est tout diviser en micro petits morceaux, les distribuer inégalement entre tout le monde et puis dire que c'est comme ça que ça va être bien géré. Donc ça, c'est globalement historique, enfin c'est très caricatural, mais ça peut être un peu un résumé historique de ce qu'on a fait. Est-ce que c'est ça notre choix aujourd'hui? Et donc je mets là-dessus le concept de commun. Est-ce que c'est pertinent et comment on le fait? Et voilà. Et en fait ce que vient de dire Gilles, ça met en évidence ça. Et les enjeux sur la propriété des haies, c'est pareil. Louise en parlait. En fait, qui est-on pour dire à quelqu'un comment gérer sa ressource? En fait, aujourd'hui, notre choix de société, c'est de dire dans notre constitution française, il y a écrit en article 12, non, je rigole, je ne sais pas quel article, il y a écrit le concept de propriété privée est constitutionnel en France, et puis c'est super, c'est ça dont on a envie. Et donc aujourd'hui, c'est notre choix, un de nos choix cœur de construction sociale, notre contrat social, et après, on est là à se dire, ah ben non, mais moi j'aimerais bien dire à l'autre, là, dans sa propriété, comment est-ce qu'il fait pour gérer? Comment il fait pour gérer son truc, etc. Et en fait, ça, c'est pour moi, c'est une remise en question hyper, hyper fondamentale de notre contrat social à tous. Qui est-on pour dire aux autres comment gérer chez eux? Alors que, accepterait-on que quelqu'un vienne nous dire chez nous comment gérer chez nous, quoi? Et donc voilà, aujourd'hui, on dit les haies, les forêts, ça, c'est divisé en petites parcelles qui sont les propriétés des uns des autres, et eux, ils gèrent chez eux. Et là-dessus, moi, je prends l'exemple du Morvan, parce que pour moi, c'est exemplaire. Dans le Morvan, on a d'un côté des mecs qui ont planté du Douglas pleine balle sur une rentabilité financière à 60 ans, machin, un truc qui file, et on peut le critiquer comme on veut, biodiversité. biodiversité, c'est affreux, machin, truc, ok, très bien. Mais eux, ils ont, voilà. Et à côté de ça, on a des écoles, alors des écoles, qui ont chopé les parcelles d'à côté, parce qu'ils se sont dit, tiens, mais on veut pas que tout passe en Douglas, et qui, du coup, laissent tout partir en biodiversité intégrale. Et en fait, l'un ou l'autre, moi, ça revient au même truc de base. On est en train de respecter le truc de dire on divise en propriété privée et puis chacun fait ce qu'il veut chez soi. Et est-ce que c'est ça moi, ça ne me donne pas espoir pour la projection dans le temps, quoi, typiquement. Et au contraire, avoir une approche, réussir ensemble, avoir une approche de commun en disant bah, en fait, ce pan de forêt, cette montagne, ce sol, il est notre propriété commune. Et comment on fait pour trouver un équilibre entre les différents enjeux, quoi? Parce que tout le monde a des bonnes raisons de faire ce qu'il fait, en fait. Chacun arrive à argumenter. Pardon, désolé, je pars en tête.
Je vais mettre... du coup, Rémi, c'est bien ce que t'as... Demain, il y a un atelier sur la propriété privée qui va être par Guy, et notamment sur la propriété marchande et la propriété d'usage. Et il y a déjà des exemples de propriété d'usage sous forme associative, et c'est demain à 15h ici. Et on va parler aussi du bois, etc. Donc, comme ça, je lance l'atelier de demain, mais qui va être hyper intéressant par rapport à cette discussion. Et moi, j'ai l'impression, peut-être que je vais être dans un sujet complètement parallèle, mais donc de formation maraîchère, et voyant des gens qui acquièrent des terrains à titre professionnel ou individuel, on parle beaucoup de haies, mais de haies nourricières ou de forêts-jardins. Et j'étais en train de me poser la question, en fait, est-ce que c'est pas une utopie, si on se projette dans le futur, peut-être avec les ateliers d'après, comment on peut allier haies nourricières et haies pour faire du bois de chauffe, etc., enfin, tout ce qu'on vient de parler, d'énergie, etc. Et du coup, en fait, moi, je vois dans le maraîchage, on parle beaucoup de ça, haies nourricières, mais j'ai jamais entendu parler de l'énergie par rapport au bois dans mes formations agricoles, et comment allier un peu tous ces discours au niveau des haies qui sont différentes. Enfin, j'ai l'impression de partir sur un autre sujet là, et je sais pas si on a trop le temps de continuer, mais et ça se trouve, je suis complètement en décalage avec la conversation qu'on a depuis ce matin. Mais du coup, c'est aussi ces haies-là, comment on les entretient, qu'est-ce qu'on en fait, est-ce qu'elles ont un apport dans le futur, ou est-ce que c'est une utopie de se dire qu'avec ça, on va nourrir des gens, et en même temps pouvoir se chauffer et faire d'autres choses bien par rapport à la biodiversité et tous les tout ce que ça entraîne, en tout cas de positif. Voilà, du coup, j'ai l'impression que ce sujet là des fois je l'entends beaucoup dans certains cercles et pas dans d'autres, et je voulais savoir s'il y a des réflexions par rapport à ça aussi, à aller tout ça, voilà.
Peut-être une ou deux dernières prises de parole, et après on va passer en atelier.
La baguette magique.
Merci. La touillette, la mouvette magique. Ouais. Maxime Leloup, donc moi je suis originaire de la région. J'ai grandi à Beauvin, à côté de la Ferté-Massé, sur une ferme. Aujourd'hui je suis technicien agroforestier, indépendant, et je travaille principalement sur l'arbot, donc tout ce qui est forêt-jardin, haies nourricières et plantes de service aussi, donc comment fixer de l'azote, etc. Ouais. Je reprends ou... Non. En fait, je voulais répondre, et puis j'ai deux murs supplémentaires à apporter, histoire que le tableau soit un peu plus un peu plus joyeux. Bon, en fait, sur tout ce qui est nourricière, jardin, forêt, agricole, c'est le sujet le plus difficile dans le domaine, parce que même si on arrive à faire un système fonctionnel performant, et là on parle bien de performance agricole, avec un objectif principal de production alimentaire, ce qui est déjà pas gagné, parce qu'on est sur des systèmes diversifiés, un peu plus complexes, etc. En fait, même dans des circuits courts, on se retrouve à côté de gens qui font de l'arbot un peu plus mono, même en mode agroécologique, mais qui du coup ont des coûts de production réduits. Et donc sur le modèle haies fruitières, jardin, forêt, en mode très diversifié, là c'est une énorme question, en fait. Et j'ai pas la réponse, en fait. Et je pense que jusqu'à maintenant, la plupart des gens n'ont pas la réponse, sauf peut-être quelques personnes... comme Yannick de Caligny, là, qui aurait des éléments de réponse, parce que lui, il a travaillé sur ce modèle-là depuis longtemps en l'installant. Voilà. Après, on pourra en parler toute une journée de ce sujet-là, parce qu'il y avait vraiment énormément de choses à dire. Et donc, les deux murs, les deux autres murs que je voulais ajouter, alors je pense qu'il y a un mur politique très dézoomé. Je vais prendre un exemple qui est parallèle, parce que je ne connais pas très bien le secteur du bois ou du bois énergie. C'est celui de l'agriculture, en fait. Aujourd'hui, on demande à nos agriculteurs de produire de manière vertueuse, etc. Et en parallèle de ça, on ouvre les marchés aux produits de la Nouvelle-Zélande. Enfin, c'est l'Europe qui fait ça. Sans appliquer les clauses miroirs. C'est-à-dire qu'en principe, pour faire rentrer des produits alimentaires dans l'Union européenne, il faut que les normes de production soient respectées. Et en fait, l'Europe a récemment ouvert le marché à des produits alimentaires venant de Nouvelle-Zélande qui ne respectent même pas les clauses miroirs. Et donc ça pose des problèmes environnementaux et puis ça pose aussi des problèmes de concurrence déloyale parce qu'on a nos pauvres agriculteurs. Enfin là, je suis très subjectif parce que mes deux parents sont agriculteurs. Donc je dis pauvres agriculteurs, mais je l'assume, se retrouvent en concurrence avec des trucs qui juste n'ont rien à voir. On se retrouve dans la situation sur le blé, par exemple, où on reproche au système d'agriculture de conservation des sols de faire un glyphosate bas volume à l'automne, au début de la culture, alors qu'on fait rentrer sur le territoire français du blé canadien qui a été mûri au glyphosate. C'est-à-dire, il est mis en juillet ou en juin avant la récolte. Quoi. Et le truc qui n'a rien à voir, en fait. Donc ça, c'est premier mur. Et le deuxième mur, qui est un peu plus anthropologique ou encore plus dézoomé, je pense que c'est un mur de récit. Sur l'interaction humain-environnement, en fait, on a un peu deux grandes manières de se positionner. Quand on lit un peu les anthropologues ou même quand on discute avec les gens, on peut les relire facilement en fait, dans les discours, ces manières-là. Il y a une manière très utilitariste, en fait, qui est l'approche paysanne en fait, de l'environnement. C'est-à-dire que, entre guillemets, alors plus ou moins, suivant les sociétés, suivant les lieux, on considère qu'on fait partie de la nature, donc on a le droit d'agir, on a le droit d'avoir un impact dans la nature. Et donc effectivement, comme disait Gilles, pour sauvegarder une haie, on va lui garder sa fonctionnalité, on va lui garder son utilité, on va conserver son existence comme ça. Et après, toute la poésie de la haie, elle n'est absolument pas empêchée par ça. Au contraire, des fois, alors là, c'est peut-être en tant que fils de paysan que je parle, mais je pense qu'elle est favorisée par ça, en fait. Et l'autre récit, qui est en conflit très fort, en fait, très opposé à ça, c'est le récit environnementaliste. Et ces deux récits-là, on les retrouve dans les sciences. C'est-à-dire que les sociologues, anthropologues, géographes sont plutôt, de manière générale, sur le récit utilitariste, en fait, et l'approche paysanne. Et on retrouve dans les tropiques, on parle de chasseurs-cueilleurs, ici on parle de paysans, mais finalement, quand on creuse les choses, c'est les mêmes personnes, c'est les mêmes approches, quoi. Et de l'autre côté, on a tout ce qui est lié aux sciences environnementales, plutôt sciences dures, qui considèrent que l'homme est séparé de la nature, qu'il a un impact négatif, et qu'il vaut mieux ne pas intervenir. Et en fait, quand on vient à notre sujet de la haie, on se rend compte, et ça me fait penser à une discussion que j'avais eue à la Menuise cet été, avec quelqu'un qui me disait « Ah, mais c'est beau ici, c'est la nature ». Et ce qu'on voit sous les yeux, c'est un paysage qui a été façonné et créé par des générations d'humains depuis plus de 1000 ans. Et en fait, ce n'est pas de la nature sauvage. Il n'y a pas de nature sauvage autour de nous. Il n'y a que du construit, un construit social, historique, géographique. Et la question maintenant, c'est justement, qu'est-ce qu'on fait de cet héritage-là ? Sachant qu'agronomiquement, quand on regarde les classes d'âge dans les haies, on a un héritage qui est dépérissant. Et comme ça a été évoqué sur la plantation de haies, planter une haie qui va être fonctionnelle et qui va réussir, en fait, c'est vraiment pas simple. Donc il y a un troisième mur, c'est le mur agronomique, on pourrait dire. Voilà, donc j'ai rajouté trois murs d'un coup.
C'était maçon, quoi, en fait.
C'est ça.
Ah oui, tu voulais dire un truc ?
Non, je savais pas.
Allez,
c'est 11h. Ok, là je vous propose peut-être de faire une petite pause pour ceux qui veulent boire un verre, se dégourdir les jambes, fumer des cigarettes, etc. Et après d'enchaîner sur une petite demi-heure d'atelier en groupe. Donc j'aurais aimé être un peu plus attentive et prendre des notes, mais ça a été compliqué de le garder silencieux à côté. Quelque chose que je peux vous proposer, c'est de faire des groupes par affinité avec une thématique. Peut-être que c'est la meilleure façon de ressortir des choses un peu pertinentes. Donc ce que j'ai sourcé, c'est sur les crises énergétiques à venir, travailler sur la sobriété. Je ne sais pas s'il y a un sujet qui intéresse sur la sobriété. Il y a la priorisation des usages du bois. Si à un moment donné, en fait, on doit décider de chauffer tel ou tel endroit, quels sont les moyens par lesquels on peut rendre légitime ce genre de décision compliquée. Il y a la question de gouvernance. Du bois, à qui appartient le bois, qui l'exploite, etc. Il y a les enjeux communicationnels. Comment est-ce que, du coup, on n'a pas un clivage entre une image que... Enfin, comment est-ce qu'on communique pour qu'il y ait une acceptation sociale de la gestion du bois telle qu'on l'imagine souhaitable ? Parce que c'est pas évident. Et après, il y a le changement climatique. Je suis sûre qu'il y a plein d'autres sujets. Comment ?
Petit sujet, le changement climatique.
Ouais, petit sujet, mais tellement petit qu'il prend qu'une seule page. Du coup, comment est-ce que vous voulez qu'on procède ? Est-ce que on vous répartit de façon arbitraire ou est-ce que je désigne des... Enfin, qui potentiellement se positionne pour dire telle thématique ? Moi, j'ai trop de choses à dire, je veux bien porter celle-là.